Je vous invite à chercher dans votre Bible le livre de Jérémie et le chapitre 29. Vous connaissez ce magnifique verset, Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh ! Quelle promesse ! Quelle magnifique promesse ! Beau verset que plusieurs ont choisi au début de leur vie de couple. Première fois que j'ai prêché sur ce passage, c'était à l'occasion d'un mariage. C'était leur verset qui était affiché partout. Verset magnifique aussi pour une rentrée d'église. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. On voudrait prendre ça. Yes, c'est... Ouais, allons-y. Et c'est vrai, j'aimerais pouvoir vous dire, ça va être extraordinaire cette année. On va changer de local, on va connaître des moments merveilleux. Et toutes sortes de choses comme ça. La réalité, c'est que cette promesse fait partie d'une lettre envoyée aux captifs d'Israël nouvellement arrivés à Babylone. Et si vous voulez bien, je voudrais qu'on lise les versets 1 à 14 pour comprendre le contexte. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils d'Ilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Voilà, la lettre est tout autre et le contexte est tout autre. Dieu envoie cette promesse d'un avenir et d'une espérance, de projet de paix au moment où il est en train de corriger son peuple et de l'envoyer en déportation à Babylone. C'est terrible. Et Dieu dit, je connais ces projets que j'ai formés sur vous, sont des projets de paix, mais ça va durer. Ça va durer 70 ans. N'hésitez pas à construire des maisons. N'hésitez pas à cultiver des jardins parce que vous ne reviendrez pas de sitôt. Certains d'entre vous, la plupart d'ailleurs, ne reviendront pas. C'est Dieu lui-même qui l'a décrété. Ils se sont détournés de lui, ils ont rejeté les avertissements des prophètes, et en particulier ceux de Jérémie. Alors Dieu, selon sa parole, les conduit au désert pour parler à leur cœur. Vous êtes peut-être comme le peuple qui reçoit la lettre de Dieu. Rien dans votre situation n'est réjouissant, c'est une rentrée morose. Eux, ils ont tout perdu. La plupart ont perdu des membres de leur famille lors du siège de Jérusalem. Par la famine, par l'épée, ils ont perdu leur propriété, ils ont perdu tous leurs biens. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur terre. Ils sont partis avec ce qu'ils avaient sur le dos. Un point, c'est tout. Et vous ? Il vous semble peut-être que aussi impossible de récupérer ou de sauver quoi que ce soit dans les circonstances pénibles que vous vivez. Et si c'est le cas, ce texte et cette promesse est écrit pour vous également. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il dit, et c'est ce qu'on va voir en premier lieu, « Je connais ». On verra ensuite les projets de paix, et puis enfin, que vous me trouverez. Je connais. Je connais, non pas vous connaissez, mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. En hébreu, il y a une emphase rendue par toutes les traductions françaises, sauf la mienne. En fait, c'est dit, car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ou je connais, moi, les desseins que je forme pour vous. Cette emphase suggère que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas les desseins que moi, l'Éternel, je forme pour vous. Et vous pouvez penser que dans votre situation, personne ne peut le savoir. Mais moi, je connais les desseins que je forme pour vous, dit l'Éternel. On pense que tout s'effondre parce qu'on est complètement déboussolé. On ne comprend rien. Notre nature pécheresse a corrompu notre intelligence. Notre discernement est voilé. Mais Dieu connaît. Il connaît le chemin. Il connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive peut-être, mais Dieu, non seulement il comprend, mais aussi il contrôle. Et puis même, il dirige tout cela. Et c'est cela qui est tellement rassurant pour nous, ses enfants. Je connais. Les choses qui vous sont cachées sont limpides pour lui. Les choses qui sont obscures, l'avenir qui peut être ténèbre, lui, il connaît. Il connaît parfaitement. En Ésaïe 55, verset 9, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces pensées sont impénétrables. Impénétrables à notre esprit humain. Mais lui, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il connaît les moindres détails. Il fait tout avec sagesse et il fait tout avec amour. Ça ne signifie pas qu'on ne comprenne rien de Dieu ou de ses voies. Mais ça signifie qu'on ne les comprend pas pleinement. On ne les comprend pas entièrement. Souvent, on aimerait tout savoir sur ce qui va se passer, sur les projets, sur l'avenir. On voudrait, voilà, on voudrait être sûr que maintenant, c'est l'autoroute, quoi. C'est pavé d'or et de rose. On voudrait être sûr de ça. Mais il y a quelque chose en nous qui est inquiet. Mais lui, il sait. Parfois, on comprend un petit peu, mais on ne comprend jamais entièrement. On comprend certains aspects, mais on ne comprend pas d'une manière exhaustive. Il y a toujours une dimension qui nous échappe. Son dessein, nous ne le saisissons pas pleinement parce que son dessein est bien plus vaste que notre simple petite vie. Souvent, on pense être au centre de l'univers. pense que, voilà, il y a nous, puis bon, Dieu, il est là pour nous, et puis les frères sont là pour nous, l'Église, là, tout. Et on est là, dans notre pensée, on pense que tout ça, ça tourne autour de nous, au fond. Et Dieu dit, non, c'est... le héros, c'est pas toi. Le héros, c'est moi. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Son dessein, il s'étend sur tous les hommes, de tous les âges. C'est lui qui est au centre de l'histoire. Ce n'est pas simplement parce que nous sommes des pécheurs que nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu, tout de lui, ni tout ce qu'il fait. Mais c'est parce que nous sommes finis et que lui, il est infini. Et donc, ce qu'il fait et ses œuvres sont à sa dimension. Elles nous dépassent. Elles dépassent notre entendement. Même l'apôtre Paul, quand il a expliqué, il avait eu une révélation que personne d'autre n'avait eue de l'Évangile. Et à la fin, après avoir expliqué tout cela dans l'Épître aux Romains, il s'arrête. Et puis là, il est au bord de cette immensité qu'il a essayé de dépeindre, qu'il comprend lui-même. Et puis, au chapitre 11, au verset 33, il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables. » Et ses voix, incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Le psalmiste David, il dit dans le psaume 139, le verset 6, il dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Il y a un moment dans notre vie où on doit pouvoir dire « Waouh, Seigneur, tes plans, ils m'échappent. Tes dessins, tes projets que tu formes pour moi, la manière dont tu vas conduire ma vie, tout ce que tu es en train d'accomplir, tout ça, ça m'échappe. J'en perçois quelques aspects. Et les quelques aspects que j'en aperçois, je trouve ça merveilleux et ça me permet d'adorer. » Oh, merveille, aux profondeurs de la sagesse, de la science de Dieu. Mais à la fois, lui seul connaît. Et donc, on doit venir se réfugier dans cette pensée, dire, Seigneur, c'est toi qui connais et c'est toi qui vas diriger ma vie maintenant. Il y a des aspects, il y a des domaines, il y a une dimension qui m'échappe, que j'arrive pas à contrôler, que je n'arrive pas à mettre dans ma tête. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça, mais je veux te faire confiance parce que tu es le roi, parce que tu es celui qui dirige à merveille. Voyons les projets de paix. Il dit « projet de paix et non de malheur ». Et ça doit nous encourager nos cœurs. Quel que soit le chemin par lequel le Seigneur nous engage, le chemin est un chemin de paix. Ce sont ces desseins qui sont bienveillants. Combien c'est rassurant cette pensée-là. De dire, je ne sais pas tout par quel chemin il va me faire passer, mais je sais que ces chemins, ils sont bienveillants. Il arrive souvent que les gens dans notre entourage ne sont pas bienveillants. Et peut-être qu'ils influencent notre chemin avec leur méchanceté. Mais lui, il est bienveillant et il va conduire nos pas parfaitement. Ses projets sont parfaits. Et en fait, c'est ça le sens du mot. Et le mot ici, des projets de paix. Le paix, vous connaissez l'hébreu, paix, c'est shalom. Mais le premier sens de shalom, c'est celui de complet, de parfait, de plein, de plénitude. Quand Dieu dit, je sais, je connais les projets que j'ai pour toi, ce sont les projets de plénitude. je connais des projets qui vont satisfaire ton cœur, qui vont te combler. Voilà le genre de projet que Dieu a pour nous, pour ses enfants. Et pour tous ses enfants. Vous avez remarqué que souvent, on pense être une exception. Oui, ça c'est vrai, la plupart du temps c'est comme ça. Et pour moi, on a l'impression que Dieu fait une exception. Je sais, il n'oublie personne, mais moi il m'a oublié. Non, sans exception. Pour tous ses enfants. Ces projets sont les projets de paix. Dieu n'a pas de pensée défavorable envers vous. Aucun dessein de malheur. Il n'a jamais eu de pensée ou de projet malveillant à l'égard de ses enfants. Il n'en aura jamais. Même s'il est parfois obligé d'utiliser la verge, ce n'est jamais la verge de la fureur qui veut détruire, mais c'est la verge du Père qui châtie son enfant pour son bien temporel et éternel. Il n'y a aucune trace de malice dans les plans qu'il élabore pour son peuple. Il n'est pas dit que les enfants de Dieu sont à l'abri des difficultés ou de la misère. Mais les circonstances que nous subissons et qui nous semblent mauvaises servent à notre shalom, à notre paix, à notre plénitude. Dans son livre qui s'intitule « Un témoignage du XXe siècle », Malcolm Muggeridge a écrit « Je peux dire en toute honnêteté que tout ce que j'ai appris durant mes 75 années passées sur la terre, tout ce qui a rehaussé et éclairé mon existence s'est produit à travers les difficultés et non à travers le bonheur que je l'ai recherché ou même atteint. En d'autres mots, s'il s'avérait possible d'enlever les afflictions de notre existence terrestre par quelque drogue miraculeuse ou autre charabia médical, tel que l'a envisagé Aldous Huxley dans son livre « Le meilleur des mondes », il n'en résulterait pas une vie plus douce, mais plutôt tellement banale et tellement insignifiante qu'elle serait insupportable. Ces desseins sont tous empreints de bonté pour la paix et non pour le malheur. Et même quand Dieu permet la souffrance, quand Dieu châtie, quand Dieu corrige, ça n'est jamais dans des projets mauvais, de malheur, mais toujours avec une perspective de paix, de plénitude. Nous ne savons pas ce qui nous attend durant l'année qui s'ouvre devant nous. Mais nous savons que ce qui nous attend contribuera à notre paix, à notre plénitude, à notre perfection. Parce que celui qui tient l'univers entre ses mains a des projets de paix. Dans notre texte, il est dit, celui qui parle, hein, verset 4, verset 8, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées ». C'est comme ça que c'est traduit dans la Bible. Second 79, mais d'autres traductions, c'est en hébreu, c'est Yahvé Sabaoth, c'est le maître de l'univers. J'aime cette pensée-là. Ainsi parle le maître de l'univers. C'est-à-dire celui qui tient toute chose, à qui rien n'échappe. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je dirige toute chose. Au verset 8 et 9 dans notre passage, il dit « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » Il y a des faux prophètes qui cherchaient à rassurer le peuple faussement. Il lui prophétisait un retour rapide à Jérusalem. Il y a Anania notamment, dans le chapitre précédent, le chapitre 28, par exemple, au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise... » Voilà comment Anania parle. « Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 ans, voyez la prophétie, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé en ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, celui dont il est parlé au début du chapitre 29. Je le ferai revenir et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Waouh, la prophétie. Verset 10. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années je briserai le joug de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Il veut prophétiser quelque chose de bien, quelque chose de bon. Et bon, allez, ça dure 2 ans, puis après vous rentrez. Là, vous avez déjà fait 8 mois, c'est super. Maintenant, vous voyez, vous comptez, et puis dans quelques... Hop, vous rentrez bientôt. Jéconia, ou Joachim, il a été emmené parmi les premiers à Babylone dans l'année 597. En réalité, il va passer le restant de ses jours à Babylone. Il ne reverra jamais Jérusalem. Et ça, c'est l'histoire qui nous le dit, hein, chapitre 52 du livre de Jérémie, c'est la conclusion du livre même. Parfois, on voudrait prédire des changements de circonstances. Ah, des changements de circonstances parce qu'on pense que tout notre malheur provient de nos circonstances. Et on veut prédire des changements de circonstances rapides, avec un adoucissement des difficultés très prochaines, un petit peu comme font les horoscopes. Parce qu'on pense que la paix dépend des circonstances qui nous arrivent. Mais la paix provient de la présence de Dieu au sein de notre situation, de nos situations. On aimerait prophétiser la guérison devant la maladie. On aimerait prophétiser l'embauche là où il y a le chômage. On aimerait prophétiser la paix là où il y a la guerre. Ou la réconciliation là où il y a la dispute. On voudrait prophétiser la richesse là où il y a la pauvreté. Comme si le seul avenir, comme si la seule espérance possible, c'était des circonstances favorables. Mais Dieu a un projet de paix dans les circonstances de la déportation. Ça, c'est difficile à capter pour nous. Au travers même des difficultés les plus terribles, les plus grandes, Dieu a un projet de paix. Une œuvre à faire dans le cœur de son peuple. Et cette œuvre, elle se fera en exil. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre 70 ans. Il va rendre son peuple attentif à sa voix. Il va lui donner la repentance et le pardon. Tout le temps où il était à Jérusalem, le peuple n'écoutait pas. Mais là, à Babylone, il écoutera. Et cette œuvre-là, c'est ça l'avenir d'Israël. Certains parmi vous sont peut-être aux prises avec d'énormes difficultés en ce moment. La vie peut-être semble s'arrêter, c'est l'impasse, c'est la ruine totale. Mais Dieu dit, vous avez un avenir et une espérance, je n'ai pas fini avec vous. Des projets de paix, des projets qu'on n'arrive pas à saisir, mais ces projets sont de paix. Et puis, enfin, il dit, vous me trouverez. Et Dieu dévoile un peu de ses projets, et un de ses projets, c'est précisément de le trouver, de le rencontrer. Je disais tout à l'heure, ils ont tout perdu. Ça n'est pas tout à fait exact. Ils n'ont pas perdu Dieu. Ils n'ont pas perdu Dieu. C'est vrai, ils ont tout perdu. Dieu les a conduits en captivité. Ils ont tout laissé derrière eux. Sauf Dieu. Quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils ont du courrier. Ils ont du courrier en captivité. Vous imaginez la chose? Ils ne lisaient pas le courrier quand ils étaient chez eux, mais ils arrivent là-bas, il y a du courrier. Et c'est Dieu lui-même qui écrit. Et dans cette lettre, il dit « ça va durer, mais c'est pour la paix, afin de vous donner un avenir et une espérance ». Ils arrivent là-bas à Babylone, désespérés, et qui les accueille? Dieu lui-même. Bienvenue à Babylone. Je suis là. Et c'est ce qu'il dit. Je suis toujours là. Vous avez tout perdu, mais je suis toujours là. Il envoie ses lettres par Jérémie. Il envoie le prophète Ézéchiel en déportation avec le peuple, avec le même message. En Ézéchiel 11, verset 16, il est dit « Eh bien, transmets à tes compagnons de déportation ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. » Écoutez ça. « Je vous ai envoyé dans des pays lointains, parmi des peuples étrangers, mais même là, je suis présent parmi vous, comme dans un sanctuaire. » Imaginez la chose, avant tout tournait à Jérusalem, toute la vie du peuple tournait là autour du temple et du sanctuaire avec la présence de Dieu qui était symbolisée là. Et ils n'y ont prêté aucun égard. Ils perdent tout ça, ils partent en déportation et là Dieu dit, écoutez, à Babylone, parmi les païens, alors que vous avez tout perdu, que le temple est détruit ou sur le point d'être détruit, je suis là comme dans le sanctuaire. Vous pouvez me rencontrer, vous pouvez avoir communion avec moi. Voyez-vous la puissance d'encouragement de cette vérité quand ils arrivent désespérés, c'est Dieu qui est là. En fait, ils ont tout perdu, mais ils vont gagner Dieu parce que leur cœur est prêt à se repentir et à chercher le Seigneur. Rien ne manque à qui Dieu reste. Dans le verset 12, dans notre passage, il est dit « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » J'ai essayé de comprendre le verset, mais il dit « Vous m'invoquerez et vous partirez ». En hébreu, le verbe « partirez », c'est aussi « s'avancer, venir, poursuivre ». Alors, je pense que c'est plutôt « vous m'invoquerez et vous viendrez à moi, et puis vous me prierez et je vous exaucerai. » Vous savez, quand ils sont arrivés là-bas, tout c'était la ruine totale pour leur vie. Et là, ils ont juste crié à Dieu, ils ont invoqué Dieu, ils ont juste dit « Ah, pitié !» Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils se sont levés. Ils se sont avancés vers Dieu, ils ont cherché sa face, et puis là, ils ont prié Dieu. Et la Bible dit ici, « Et je les exaucerai. » Dans leur détresse, ils crient au secours, ils se lèvent, s'approchent de Dieu avec repentance. Ils prient Dieu qui les exauce. Versets 13 et 14, il dit, « Vous me chercherez, vous me trouverez, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » dit l'Éternel. Dieu ne va pas jouer à cache-cache avec nous. Au contraire, il veut se révéler. Ils vont reconnaître un Dieu de justice, un Dieu saint, un Dieu de miséricorde et de grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure. Il leur fait une merveilleuse promesse. « Je viendrai vous chercher. » Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, je vous rassemblerai, je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où vous avez été chassés, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Oui, je vous ramènerai. Je vous ramènerai, je vous chercherai. Personne ne pouvait empêcher Israël de partir en captivité. Personne ne pouvait ramener Israël de captivité. Mais lorsque Dieu l'a décrété, personne ne pouvait non plus retenir Israël en captivité. Il a envoyé son serviteur Cyrus, le roi de Perse, qui a déclaré « Retournez à Jérusalem » et ils sont retournés. Et ça, c'est la grande promesse de l'Évangile. Je viendrai vous chercher. Je viendrai vous chercher. Nous sommes captifs du péché. Nous sommes éloignés de Dieu, séparés les uns des autres à cause de nos fautes, mais Dieu a envoyé son serviteur Jésus pour nous ramener. Nous l'avons trouvé en captivité, ou plutôt, il nous attendait là en captivité. Il a dû venir dans notre monde. Il a payé pour notre libération. Il a donné sa vie en rançon pour nous. Et l'histoire se répète chaque fois que nous sommes pris au piège du péché, que les conséquences de nos péchés nous rattrapent. Il nous semble que nous perdons tout jusqu'à ce que nous trouvions Dieu et Jésus-Christ qui nous pardonne, qui nous ramène. Et cette histoire, elle se reproduit souvent pendant même notre vie de chrétien, jusqu'au jour où il viendra nous chercher et nous mettra à l'abri définitivement du péché, que nous partagerons sa gloire. Dans l'année qui s'ouvre devant nous, ce que je voudrais suggérer, c'est que Dieu est le plus précieux bien. Puisque quand tout nous a été retiré, c'est lui seul qui nous reste et qui nous suffit. Si c'est le cas lorsque tout nous a été pris, c'est aussi le cas lorsque tout nous a été donné. Et on peut vivre aujourd'hui l'année qui s'ouvre devant nous avec cette perspective. Je vais chercher Dieu, je vais m'attacher à lui, je vais reconnaître mon péché, je vais vivre dans sa présence, je vais ne rien lui cacher, je vais vivre dans la communion avec Jésus-Christ pour ma vie entière. L'histoire d'Israël, l'histoire des jugements de Dieu, ils sont là pour parfois nous réveiller, nous dire, regarde comment Dieu est, regarde comment il agit, et puis vois, redécouvre sa grâce à tout entière, et puis fais la paix avec lui, trouve en lui ton pardon et redémarre avec lui. Je voudrais qu'on termine en priant, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que dans ta grâce et dans ta bonté infinie envers nous, Seigneur, tu répètes cette histoire que nous venons de lire aussi souvent. Chaque fois que notre péché nous rattrape, chaque fois que nous sommes humiliés à cause de nos fautes, chaque fois que nous perdons tout, ou qu'il nous semble tout perdre. C'est pour que nous te saisissions, toi. C'est pour que nous revenions de tout notre cœur à toi. Et Seigneur, nous ne voulons pas laisser cette vérité, mais au contraire, la vivre encore aujourd'hui. Je veux te prier pour que tu nous aides à saisir Jésus-Christ, à saisir la promesse de ton évangile. Tu es là pour venir nous chercher, tu es là au milieu de nos souffrances, c'est toi qui as payé notre rançon, tu as effacé notre dette. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur, et vivre pour toi, par Jésus-Christ. Amen.